BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse est 100% uploadé, on vous accompagne en autonomie totale jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct des marchés qui sont en hausse, le CAC 40 en mode ascension. Pour entamer la semaine, il progresse notre CAC de 0,5%. Les valeurs à ne pas rater, on parlera d'Atos avec 4 offres quand même pour la restructuration financière. Puis aussi, on parlera de Carmat. Carmat confirme sa cible de chiffre d'affaires cette année et indique que plusieurs actionnaires de référence comptent le soutenir financièrement. Carmat s'envole aujourd'hui de plus de 15%. On en parlera également. Et puis Hortense Lacroix sera avec nous tout à l'heure. Ce sera à 15h40 dans la Bourse Cash. Hortense Lacroix pour Arbevel a quelque chose à vous dire concernant les marchés face au private equity. Est-ce que la bourse face au private equity, c'est de plus en plus David contre Goliath. Elle nous dira en toute franchise ce qu'elle en pense. Mais d'abord, 15h31, 9h31 à New York, c'est l'ouverture des marchés américains. Et la cloche qui retentit, ils sont là nos experts USA Today pour vivre en direct cette ouverture US. John Plassard, bonjour John, depuis au bureau.
Bonjour Guillaume.
Puis Aude Kersulek aussi, qui nous accompagne tout au long de cette journée, cet après-midi aussi. Aude, depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver.
Bonjour.
Comment se passe ce début de séance aux États-Unis, Aude?
Eh ben, on a ouvert dans le vert, de la même tendance hein, que vendredi soir en clôture. On rebondit assez bien encore ce matin. Le S&P 500 qui prend 0,4%, 5151 points. Le Dow Jones plus 0,5% également, 38871 points. Le Nasdaq plus 0,3%, 16123 points. Pour rappel, hein, en variation hebdomadaire, on était monté la semaine dernière à Wall Street, contrairement à Paris, à l'Europe, hein, qui avait fait un petit peu moins bien. Post-réserve fédérale et surtout post-marché, post-chiffre de l'emploi vendredi, ça nous avait bien libéré. Et puis on avait eu aussi une belle décrue hein, des taux obligataires et le taux 10 ans américain qui reste campé sur les 4,5% ce lundi. Donc 4,5% pour le 10 ans américain et un œil tiens sur l'euro-dollar qui vaut ce matin 1,0780. Voilà donc les marchés, les trois indices américains sont dans le vert.
Quels seront, John, les moments phares de cette semaine tant sur le front macroéconomique que du côté des entreprises?
Bah écoutez, peu de choses cette semaine. Une semaine assez légère, mais vous savez, ce qu'on va surtout surveiller, eh bien, c'est les messages des membres, alors pas de Jérôme Powell, puisqu'il a parlé la semaine passée, mais de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine. Et on rappelle une chose, c'est que vendredi dernier, avant les chiffres de l'emploi américain, bah, on a eu un deuxième membre de la Fed qui a dit que si l'inflation continuait à rester sur ces niveaux ou à progresser, eh bien, il se verrait demander de monter les taux. Vous savez, on en parle, le take-off. Évidemment, ce n'est pas le scénario principal maintenant, mais c'est le deuxième membre de la Fed qui le dit. Alors, qu'est-ce qu'on surveillera aussi cette semaine? Eh bien, on a la lecture préliminaire du sentiment du consommateur selon l'Université du Michigan. Elle devrait être attendue en baisse et ce serait le deuxième mois consécutif. Hein. On sait que le consommateur américain continuait à consommer, donc il était assez optimiste. Mais là, on pourrait voir une légère décrue. Sinon, on aura le budget américain, les détails sur le budget américain, les nouvelles demandes d'allocation au chômage et évidemment la fin de la publication des résultats des entreprises. Mais vous savez, Guillaume, il n'y a qu'une entreprise que tout le monde surveille et que tout le monde attend, c'est bien sûr Nvidia. Nvidia dans l'intelligence artificielle qui publiera, elle, le 22 mai.
Effectivement. Alors, Aude, on va parler, bien évidemment, des entreprises qui marquent ce début de semaine, mais d'abord peut-être la question des sondages, l'état de l'opinion publique américaine.
Oui, c'est ça, John. Vous allez nous dévoiler les résultats d'un sondage. Par quoi sont préoccupés les Américains? Alors, est-ce que ce sont des sujets économiques? Alors, est-ce qu'il y a des sujets sociaux, on sait, hein, qui divisent les Américains, les deux camps, républicains, démocrates, notamment l'avortement. Mais est-ce que c'est des sujets géopolitiques? Et là, il y a de quoi faire.
Bah écoutez, c'est une très bonne question, Aude, parce que c'est une société très renommée qui s'appelle Gallup, qui demande une fois par année aux Américains de citer le principal problème auquel leur famille est confrontée. Eh bien, évidemment, la première réponse, c'est l'inflation. Cette année, 41% des Américains citent ce problème qui est en augmentation. On en était à 35% l'année passée et 32% en 2022. Et tenez-vous bien, c'est un record. Si on revient avant 2022, eh bien en 2008, juste avant la crise financière, il y avait seulement 18% contre, comme j'ai dit, 41%. Après, les autres problèmes auxquels sont confrontés les Américains et qui les stressent, bah évidemment, c'est le surendettement. On sait que de plus en plus d'Américains ont des dettes avec des taux élevés. On a aussi le coût pour les soins de santé, le manque d'argent et les bas salaires. Et puis, le dernier, c'est les coûts de l'énergie ou les prix de l'essence. Donc, on voit que dans les réponses qui sont données par les Américains, eh bien, l'inflation et l'inflation en global est vraiment la préoccupation majeure. Et donc, évidemment, le travail de la réserve fédérale américaine va être de plus en plus compliqué parce que si on baisse les taux, on peut potentiellement craindre que l'inflation reparte à la hausse.
Effectivement, et c'est parce que la question de l'inflation est au cœur de l'attention des Américains que, vous savez, que les démocrates, le pouvoir en place, Joe Biden aux États-Unis, n'apprécie pas un certain nombre de frappes ukrainiennes sur, vous savez, des infrastructures pétrolières en Russie. Parce que, ben voilà, les frappes ukrainiennes ces dernières semaines contre des infrastructures pétrolières sur le territoire russe, ben, du coup, raréfie l'offre russe et ça fait encore un peu plus monter les cours du pétrole. Et donc, avec les cours du pétrole, aussi le prix du gallon d'essence. C'est pour ça que c'est aussi un thème au cœur de la campagne électorale. Alors justement, on est à maintenant 183 jours de cette présidentielle. Notre point quotidien sur la campagne, grâce à vous, John, USA Today. Et on va parler de Donald Trump. Donald Trump pense qu'il peut immédiatement arrêter la guerre en Ukraine. En tout cas, s'il est élu président. Il a un plan, manifestement.
Exactement, vous savez qu'on est en pleine promesse de campagne et l'équipe de Donald Trump a dit qu'il y avait un plan extrêmement détaillé entre l'Ukraine et la Russie qui avait été élaboré, mais qu'il ne serait divulgué qu'après son élection, bien évidemment, afin de maintenir l'influence. Alors, qu'est-ce que ce serait, ce fameux plan? Alors, on a très peu de détails, on a des rumeurs, mais selon le Washington Post, eh bien, il affirme que le plan clé de Donald Trump serait de faire pression sur l'Ukraine pour qu'il abandonne définitivement la Crimée et une partie de Donbass aux Russes en échange de la fin de l'occupation et de l'invasion russe. Donc vous voyez ici que, bien évidemment, ça fait les choux gras des journaux américains ce matin, mais on n'est pas sûr que le peuple ukrainien et surtout Vladimir Zelensky soient d'accord avec ce plan. Mais apparemment, si Trump était élu, ce serait la première chose qu'il ferait immédiatement après être rentré dans la Maison-Blanche une nouvelle fois.
Oui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a aussi été, bien sûr, et qui est au menu des discussions aujourd'hui à Paris, en l'occurrence, entre les présidents français et chinois, puisque Xi Jinping est à Paris en ce moment. Il est à l'hôtel des Invalides, d'ailleurs, avec le président de la République. Tout le centre de Paris est fermé, d'ailleurs, pour la circulation. D'ailleurs, si certains de nos prochains invités de l'émission nous écoutent là en direct, prenez vos précautions pour essayer d'arriver à l'heure pour la suite de l'émission, parce que le centre de Paris est manifestement paralysé. Allez, du côté de Wall Street, on disait, c'est l'ouverture et on n'est pas du tout paralysé. On est en hausse sur les indices américains. Du côté des sociétés, Berkshire Hathaway a annoncé ses résultats, puis sa stratégie aussi haute. C'est une valeur, en tout cas, un groupe qu'il faut suivre et dont tout le monde parle aux États-Unis aujourd'hui.
Bah oui, forcément, c'est celui de Warren Buffett. Warren Buffett qui a donc pris la parole ce week-end lors de l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, qui a d'ailleurs rappelé qu'il n'était pas sûr d'être là l'année prochaine par rapport à la mort de son acolyte. Il y a quelques mois, Charlie Munger, c'était en novembre. Bon, et puis il nous a aussi donné, encore une fois, des leçons d'investissement. Alors Warren Buffett qui a dévoilé se désinvestir un peu d'Apple, John, et ne pas réinvestir d'ailleurs son cash qui est à un niveau record, hein, quasiment 190 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Bah écoutez, d'abord, les résultats de l'entreprise, des bénéfices trimestriels en record, une augmentation significative des revenus provenant de la souscription d'assurance. Le bénéfice d'exploitation au premier trimestre, tenez-vous bien, Aude, a augmenté de 39% pour atteindre 11,22 milliards. Et vous l'avez dit, bien évidemment, tout le monde en parle de cette liquidité, de cet amoncellement. Vous avez dit 199 milliards de dollars et Warren Buffett a dit que la société pourrait atteindre les fameux 200 milliards de dollars en fin d'année. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, en cash, eh bien, Warren Buffett et Berkshire Hathaway pourraient racheter Disney ou même McDonald's immédiatement. Évidemment, ils ne sont pas à vendre, mais on imagine que ces montants sont faramineux. Vous l'avez dit, on a aussi appris que Berkshire Hathaway s'était délesté de quelques actions Apple. 13% de ses actions dans Apple, c'était sa plus grande position. 2% dans Chevron. Et puis aussi, il a confirmé que sa participation dans Paramount Global était à zéro, qu'ils avaient absolument tout vendu. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir ce que l'entreprise va faire de ces 190 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, potentiellement, un mouvement, un petit mouvement au Canada ou au Japon, mais Warren Buffett a dit qu'il ne trouvait toujours pas d'acquisition selon ses critères. Je vous rappelle, entre autres, ces critères qui sont d'acheter des entreprises de qualité à bas prix. C'est un peu difficile, bien évidemment, dans la situation actuelle.
Effectivement, et donc, des montagne de liquidités, les liquidités accumulées par Berkshire Hathaway, vous nous le disiez, Jonathan, désormais des records, vous nous disiez, le groupe pourrait, s'il le souhaitait, racheter à lui seul en cash tout McDonald's ou encore tout Disney. D'autant donc que Berkshire Hathaway a allégé sa position en Apple, l'a allégé même assez nettement, le titre Apple réagit, alors, petite baisse, rien de méchant, mais enfin Wall Street progresse, pas Apple. Apple perd 0,5% en ce moment, John.
Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que Berkshire Hathaway a vendu, on l'a dit, 13% de sa participation dans le groupe. C'est quand même 115 millions d'actions Apple. Il faut rappeler aussi qu'en moyenne, tous les titres qu'il a achetés, qu'il a cumulés, eh bien, la moyenne est de près de 89 dollars contre 100, un peu plus de 180 dollars aujourd'hui l'action. Donc on voit que le gain est assez substantiel et qu'il prend quelques positions malgré le fait que, évidemment, il considère la société Apple comme vraiment le joyau. Bon, vous me direz, il a 50% de son portefeuille dans Apple, près de 50%, mais le joyau des entreprises américaines.
John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau USA Today chaque après-midi. Merci beaucoup, John. Ce coup d'œil à l'ouverture des marchés américains. Aude nous accompagne également, Aude Kersulek depuis la tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, et vous nous appelez bien sûr, vous cassez l'antenne quand vous le souhaitez. Priorité à la séance et aux variations du CAC, des marchés. Le CAC qui est en hausse en ce moment de 0,4%. Notez que les volumes sont un peu plus faibles aujourd'hui puisque la bourse de Londres est fermée. Puis on parlera également cet après-midi un petit peu. Allez, du Borussia Dortmund avant demain le match retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Eh bien, le titre Borussia Dortmund progresse de 2% supplémentaire aujourd'hui. Il avait déjà bien progressé la semaine dernière après la victoire du Borussia Dortmund. Voilà, une nouvelle hausse aujourd'hui sur le marché allemand pour le Borussia Dortmund. Évidemment, les investisseurs se trompent puisque le Borussia perdra demain soir. Allez, 15h43, c'est la Bourse Cash qui s'ouvre tout de suite. Hortense Lacroix nous rejoint pour Arbevel. Bonjour Hortense.
Bonjour Guillaume.
Et bienvenue. Vous venez dire au marché, Hortense, leurs quatre vérités. Vous êtes sûr?
Tout à fait.
Pour vous, les sorties de la cote, c'est pas fini. Les fonds de private equity vont encore se régaler en bourse avec les petites valeurs. Vous l'assumez?
Complètement.
On voit déjà l'offre d'actions se tarir dans l'univers des small et mid cap avec pas mal de sorties de la cote parce que le private equity depuis des mois et des mois effectivement rachète un certain nombre de titres. Et vous venez aujourd'hui dire aux investisseurs, c'est pas fini, ce mouvement devrait se poursuivre.
On a eu un mois d'avril qui était une hécatombe. Si je prends uniquement les titres qui étaient investis dans les fonds chez Arbevel et uniquement ceux qui ont été rachetés par des private equity, donc je ne parle pas des sorties de cote par les dirigeants, on a Salsef en Italie dans l'entretien des réseaux ferroviaires, on a Enkavis sur la partie renouvelable en Allemagne, on a Darktrace sur la partie cybersécurité, on a Believe sur la partie droit audiovisuel, Nouveille sur la partie paiement, et on a Carnoff sur les services juridiques en un mois sur moins de 10 fonds. Donc on a vraiment une accélération considérable de ce mouvement des private equity sur les petites capitalisations cotées qui se comprend parfaitement parce qu'à la fois on a des multiples qui sont complètement décotés et en même temps on est sur un creux de cycle avec ces publications du premier trimestre. Donc vous avez des acteurs qui n'ont pas décoté parce qu'ils ont la chance d'avoir une volatilité qui est très limitée, qui ont des flux tout à fait favorables, précisément parce que les gens veulent éviter cette volatilité boursière. Et puis, vous avez les autres qui sont doublement pénalisés. Donc forcément, le plus valorisé mange le moins valorisé.
Effectivement, ça s'appelle un rapport de force. Donc le private equity qui continue de se régaler, hein, c'est votre terme, sur le marché actions, en rachetant comme ça, en multipliant les offres sur les petites valeurs, parfois des moyennes. Et vous dites, on n'est encore pas au bout de ce mouvement, il devrait se poursuivre.
on n'est pas au bout parce que les écarts de valorisation sont considérables. Si on regarde un
petit
peu...
Et vous pensez pas... Est-ce qu'on se dit que finalement, il y a beaucoup aujourd'hui d'offensives de la part de l'univers du private equity sur le marché action? Est-ce qu'on se dit que c'est parce que justement, cette décote dont vous nous parlez n'est plus amenée à durer? Donc là, il y a une fenêtre qui va peut-être bientôt se refermer, ce qui expliquerait peut-être éventuellement cette multiplication des opérations avant que la fenêtre ne se referme.
Je voudrais tellement vous croire qu'effectivement, cette accélération marque une espèce d'effervescence parce que le T1 serait un point bas. Ce qui est effectivement ce que nous disent les entreprises quand on écoute les publications. Mais on a un tel écart de valorisation que même si cet écart commençait à se combler, on pense qu'on a encore une fenêtre. Et justement, si on marquait la fin d'une opportunité, on pense qu'il y aurait une précipitation qui s'accroîtrait encore de la part des fonds de private equity sur les petites valeurs cotées.
Quelles sont les prochaines cibles? Alors, vous dites que ça va se poursuivre, le private equity continue de s'intéresser au marché actions. Quelles seront les prochaines cibles du private equity?
C'est une question très difficile, évidemment. Personne n'a la boule de cristal. Mais si on essaie de tirer un petit peu les fils de ce qu'on a vu au mois d'avril, on a certains secteurs qui cumulent, en fait, un désamour des investisseurs depuis longtemps, qui fait que les valorisations commencent vraiment à être à des points d'aberration. Le premier secteur, on en a déjà parlé sur votre plateau, c'est le secteur des renouvelables. Donc beaucoup d'acteurs du renouvelable sont pressentis comme étant des cibles idéales pour le private equity, puisque c'est un secteur qui est quand même assez visible en cash flow, donc ça a tout à fait le profil. Donc on peut citer au titre des renouvelables Grenergy en Espagne, on peut citer Neoen qui fait quand même la une des journaux sous un angle spéculatif en France depuis quelques semaines. On a également Solaria en Espagne qui n'a pas d'actionnaire, enfin qui a un actionnaire de référence plutôt qui, paraît-il, serait disposé éventuellement à arrêter son aventure boursière. Donc ça, c'est le secteur des renouvelables. Si on tire le secteur des paiements où on a eu une nouvelle en avril, on pourrait très bien avoir Nexi. Ça fait longtemps qu'on en parle. On pourrait, en cybersécurité, où on a eu Darktrace le mois dernier, on a Exclusive Networks qui a été cité comme étant une cible potentielle. Et enfin, dans le secteur pharmaceutique, aujourd'hui, la rumeur était autour de Rovi, société familiale espagnole, qui vient de décrocher des contrats de sous-traitance intéressants de production de médicaments et qui est pressenti également pour intéresser des fonds toujours de private equity.
15h48, c'est Aude Kersulec là qui nous appelle en direct effectivement depuis le cœur de cette séance. C'est la tour Euronext. Rebonjour Aude, parce que on commence la semaine en mode, alors, sans mauvais jeu de mots, en mode ascension, le CAC est en progression aujourd'hui.
Oui, en mode ascension, avec quand même peu de volume, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de marchés fermés, dont celui de Londres. Mais comme un lundi, on monte quand même assez bien, plus 0,4%, 7992 points, sachant qu'on est déjà allé passer au-dessus des 8000 points ce matin. Alors, qu'est-ce qui nous fait monter aussi ce matin en Europe? C'est les PMI finaux, notamment services et composites, qui sont plus élevés que prévu. Ceux de la zone euro pour le service, il est à 53,3. Le précédent était à 51,5. Et puis, le composite est à 51,7 quand le précédent était 50,3, donc une bonne nouvelle sur le front macroéconomie. Et puis on monte évidemment dans le sillage de Wall Street, des chiffres de l'emploi qui nous font revivre ce scénario de baisse des taux. Alors maintenant c'est plus l'été pour les baisses des taux de la réserve fédérale, mais plutôt peut-être septembre ou novembre que les investisseurs remettent sur la table. Et voilà donc notre hausse du jour expliquée.
Effectivement, Aude, vous nous rappelez, hein, quand vous le souhaitez, bien sûr, depuis la tour Euronext. Hortense, vous nous accompagnez aussi, et vous tous également, bien sûr, là en direct. On est ensemble et on est bien à la radio et à la télé. Mais vous pouvez aussi, vous le savez, nous suivre sur les réseaux sociaux. Le fil XBFM Bourse, n'hésitez pas à vous y abonner. Le fil LinkedIn également, il est pas mal. N'hésitez pas à vous y abonner aussi, parce qu'on vous interroge et vous pouvez participer. On rebondit d'ailleurs aussi sur vos arguments, ceux que vous nous laissez sur nos réseaux sociaux. La question du jour qu'on vous pose, elle concerne la visite de Xi Jinping à Paris. Xi Jinping est en ce moment même dans le cœur de la capitale. Il est aux Invalides, là, alors qu'il est avec le président de la République, Emmanuel Macron. Et la question qu'on vous pose, donc, quel secteur va, d'après vous, refaire de la Chine un levier? Quel secteur pourrait enfin, effectivement, par ses activités en Chine, trouver à nouveau du potentiel de croissance pour la suite? Est-ce que ce sera le secteur des spiritueux, celui du luxe, l'aéronautique ou encore le tourisme? Et vous avez été nombreux à voter, continuez, nous laissez vos arguments en commentaire. Hortense, quel secteur va enfin parvenir à refaire de la Chine, après des mois de ralentissement quand même en Chine, un levier?
Alors, c'est une question intéressante. Et les quatre secteurs que vous proposez sont certainement des leviers pour bénéficier de ce rebond de la Chine. On ne croit pas, évidemment, à un rebond de la construction en Chine. Mais le consommateur chinois, effectivement, va avoir un levier sur l'aéronautique, sur le tourisme, etc. J'ajouterais deux secteurs par rapport à la liste que vous avez proposée. D'une part, les métaux. Parce qu'on sait, sur certains métaux, la Chine représente la moitié de la consommation mondiale. Elle a quand même beaucoup baissé sa consommation sur les derniers mois. Si elle venait à revenir, étant donné que l'offre est très contrainte, on pourrait avoir une tension assez forte. Donc, aller explorer aussi l'angle des métaux pourrait être intéressant. Et puis, sur la partie auto, véhicules électriques également, les sociétés comme BYD, qui sont extrêmement bien positionnées avec des parts de marché très fortes.
Mais c'est le grand méchant loup là, pour nos constructeurs français, les constructeurs automobiles chinois.
On parle du consommateur chinois qui se réveille. Donc, pour l'instant, j'ai un angle purement domestique.
On est très content pour lui. Mais enfin, en bourse, là, je suis investisseur comme ça sur le marché, je vais le consommateur chinois. Je suis ravi pour lui, vraiment, ce que vous nous dites. Mais je suis investisseur, qu'est-ce que je fais ? Dans quel secteur vous voyez, effectivement, alors le secteur minier, les métaux, vous le disiez, qui devrait bénéficier de la consommation et peut-être d'une réaccélération chinoise. Enfin, le consommateur chinois, BYD, devrait en profiter. Je suis très content pour BYD, mais je suis investisseur en France, comment je fais ?
Si vous ne pouvez investir que sur le marché français, effectivement, BYD n'a pas d'ADR en France, il a des ADR en US. Le secteur du luxe a montré quelques signes d'essoufflement. On l'a quand même vu avec Hermès, qui a très bien publié et qui a commencé à trouver un petit peu ses limites. Après quand même des années de très forte hausse, le marché s'est concentré vraiment sur ce secteur-là. Donc c'est évidemment un levier pour le consommateur chinois, mais j'aurais tendance à penser que c'est un petit peu dangereux. Le secteur des spiritueux est poursuivi pour des ententes sur les prix. Il y a un consommateur chinois qui a un levier très important sur des Rémy Cointreau et autres. Mais c'est un secteur qui n'est pas sans ombre.
Oui, comme vous dites, les exportateurs français d'alcool comme Rémy Cointreau, vous l'avez cité au Pernod Ricard, font l'objet en Chine d'une enquête anti-dumping depuis quelques mois. Alors, c'est peut-être d'ailleurs sur la table des discussions là aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, peut-être essayer de limiter, en tout cas lever ces enquêtes. Mais c'est vrai que ça a été un énorme frein à la hausse de ces acteurs, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, en bourse. Ça leur a mis vraiment un coup de froid, un coup d'épée là, dans le dos. Effectivement, ça a été dur. Et bon, vous dites, le réveil du consommateur chinois, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, pourquoi pas, surtout si ces enquêtes anti-dumping venaient on verra, on espère peut-être finir par s'envoler. On verra, ça fait partie de ce rapport de force. Mais il y a trop d'ombre quand même. C'est ce que vous étiez en train de dire.
Exactement. C'est pas aussi simple que ça peut en avoir l'air. Il y a un jeu politique qui s'ajoute simplement au pur comportement du consommateur chinois. Donc effectivement, la partie tourisme aéronautique est assez tentante parce qu'on a un consommateur... ce n'est pas dénué non plus de risques politiques. Il faut que le gouvernement délivre les visas pour que les Chinois qui voyagent déjà au niveau domestique aient le droit de voyager au niveau long courrier. Et à ce moment-là, ça aura un effet considérable sur le trafic aéronautique qui est à peu près 20% en dessous de ces niveaux de 2019 pour le trafic long courrier, alors qu'il est déjà au-dessus de ces niveaux de 2019 pour le court courrier. Donc il y a effectivement ce levier du touriste chinois qui pourrait avoir un effet intéressant. On sait néanmoins qu'on a du mal à livrer les avions, donc ce n'est pas forcément qu'un problème d'offre non plus pour aller faire monter Airbus.
Non, effectivement. Ouais. Donc l'aéronautique, le tourisme, pourquoi pas, parmi les secteurs gagnants avec cette Chine, dont on espère que le consommateur y retrouvera confiance. C'est aussi ce qui porterait le consommateur chinois à venir voyager, pourquoi pas, et utiliser des longs courriers davantage que les courts courriers. Donc pourquoi pas un potentiel là-dessus ? Pourquoi pas le luxe aussi, mais je me sens assez prudente, c'est pour des raisons de valorisation.
C'est un secteur qui a quand même beaucoup, beaucoup performé, qui a concentré énormément de la performance du marché. D'accord. Et on a un consommateur qui commence à se réveiller, on a eu beaucoup de downtrading sur le consommateur moyen. Ce serait dommage de continuer de s'abriter sur ce consommateur très, très premium qui est le luxe, qui nous a mis à l'abri pendant toutes les années difficiles, au moment où on a l'impression qu'on repart un peu sur la consommation.
Et vous tous qui nous suivez, alors c'est le luxe pour le coup. Vous estimez, c'est la question qu'on vous pose, quel secteur va refaire de la Chine un levier pour sa croissance et un levier boursier ? Vous estimez à 41% que ce sera d'abord le luxe. et à 22%, donc deux fois moins nombreux sur les spiritueux. Voilà, Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui, c'est vrai, pour l'instant, restent plombés par cette enquête anti-dumping. Et puis, alors le tourisme, vous le mettez en tête, Hortense, mais ce n'est pas le cas de nos auditeurs qui le mettent en dernière position à 18-19%. Ouais. Et les constructeurs, là, c'est compliqué. Enfin, on n'a même pas osé proposer nos constructeurs automobiles à nos auditeurs et téléspectateurs parce que, pour le coup, la Chine, pour nos constructeurs automobiles, c'est, ouais, c'est, oui, le, c'est le loup dans la bergerie, clairement.
Non, non, effectivement. C'est pas dans ce sens-là que ça fonctionne.
Ouais. Oui. Par contre, si vous pouvez investir dans BYD, ben pourquoi pas, là, pour le coup. BYD, qui est en production de véhicules électriques, est passé, on le rappelle, devant Tesla. Les publications, on arrive bientôt au bout d'ailleurs, on n'en aura que quelques-unes cette semaine sur le CAC, Alstom, Bouygues demain, et Alstom mercredi. Quelle a été dans cette saison de publication votre coup de cœur, quoi, enfin, la valeur dont la publication vous a le plus enthousiasmé, Hortense?
Alors si on... Donc, je vais appeler publication à la fois les chiffres purs et simples de ce premier trimestre et surtout le discours que les entreprises nous délivrent pour ce qu'elles voient venir dans leur carnet de commandes lors des calls qui sont organisés suite aux publications. C'est le secteur, moi, des biens de construction, des matériaux de construction qui m'a le plus surprise, ainsi que le consommateur. Donc matériaux de construction... on a une traversée du désert qui est quand même extrêmement longue. Ça fait 18 mois que ce sont des sociétés qui sont avec des baisses de volume. Un secteur qui a réussi à tenir ses prix malgré tout dans un contexte de forte tension sur les volumes et qui maintenant commence à voir des signes de redémarrage de volume tout en maintenant les niveaux de prix qui leur ont permis d'avoir des marges historiques. Donc ça pourrait être une période tout à fait propice pour un secteur qui est encore extrêmement décoté parce que cyclique, parce qu'on n'a pas encore eu de baisse de taux et personne n'a vraiment envie de se jeter sur les promoteurs immobiliers. Et puis deuxième secteur, peut-être le consommateur, on en parlait, donc non pas le consommateur du luxe, hein, mais le consommateur de base, c'est-à-dire les lessives, l'agroalimentaire, la consommation de base qui s'oppose à la consommation discrétionnaire. En fait, on a eu des sociétés qui n'ont cessé de se plaindre de ce qu'elles appellent un downtrading. Ça veut dire que le panier de la ménagère se remplit avec des choses, des marques propres, des produits de moins en moins sophistiqués pour essayer d'économiser sur ce panier. Et pour la première fois, lors de cette saison de publication, on a entendu des sociétés comme Novonesis, qui est la fusion entre Novozym et Christiansen, qui vous expliquent qu'ils arrivent à faire 18% de croissance sur des détergents et qu'ils arrivent à faire 12% de croissance sur de l'alimentaire.
Wow.
Et ils disent, en fait, on a tenté des innovations qui ont été pricées assez chères et le consommateur est ouvert à acheter des innovations. Ce qui me paraît être en fait un tournant assez intéressant sur le comportement du consommateur.
Et à l'inverse, votre plus grande déception sur cette saison de publication ?
On a été déçus par le secteur des services informatiques, conseils, innovation, sous-traitance de l'innovation. Oui. Les Sopra, les Alten, les Wavestone, qui font face non seulement à un trimestre un petit peu difficile, ça c'était largement attendu, on a moins de jours ouvrés que l'année dernière, c'était un trimestre qui était avec des commandes assez faibles, mais on s'attendait à ce qu'elles aient un discours qu'on entend dans la plupart des entreprises, le premier trimestre sera un point bas, et puis ensuite, on voit que ça redémarre. Or, ça n'a pas du tout été le cas, malheureusement. Elles ont un discours très très prudent pour les trimestres à venir, et elles vous expliquent que tout ce qu'on attendait, que l'investisseur a tendance à magnifier un petit peu, qui est l'avènement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, l'industrie 4.0, la digitalisation, tout ça sont des projets qui sont importants en amplitude, en ampleur, et qui du coup sont sans cesse reportés en fait parce qu'on n'a pas eu de baisse des taux, on a une priorité au désendettement qui continue de se faire sentir.
Merci beaucoup Hortense. Votre franc-parler, Arbevel régulièrement à nos côtés, Hortense Lacroix, et on rappelle hein, votre message aux investisseurs dans la Bourse Cash aujourd'hui, le private equity n'a pas fini de se régaler hein, sur l'univers des petites et moyennes valeurs, sans doute encore pas mal d'opérations à venir, pourquoi pas d'acquisitions, et vous citiez quelques valeurs et secteurs particulièrement exposés, ce sera retrouvé en replay sur notre site BFM Bourse et notre application BFM Business. Merci Hortense.
Merci Guillaume.
Le CAC 40 est en hausse, plus 0,4%, Wall Street aussi en hausse, et une valeur à ne pas rater aujourd'hui, c'est Carmat, des résultats intermédiaires prometteur pour son cœur artificiel et puis le groupe confirme sa cible de chiffre d'affaires pour 2024. Carmat indique même que plusieurs actionnaires de référence comptent le soutenir financièrement, peut-être remettre au pot, et Carmat gagne 10%. Un article sur notre site BFM Bourse est disponible si vous souhaitez aller encore un peu plus loin dans la compréhension de ce titre Carmat. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.